Je vous invite à ouvrir votre Bible pour découvrir une autre scène de prière en Exode chapitre 33. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ça pourrait nous occuper des jours et des jours. Verset 7, il nous est parlé de la tente d'assignation. Assigner, ça veut dire attribuer, affecter. On dit, hein, il est assigné à résidence, c'est-à-dire qu'on lui demande de rester à la maison. L'assignation, ça définit autant le lieu que le temps. Il est assigné à résidence pour un certain temps. Et c'est vrai que dans le texte hébreu, il y a ce double sens. Il y a à la fois la notion du lieu, de l'endroit, mais également la notion de temps, d'époque. C'est pour ça qu'il y a quelques traductions, par exemple, qui ont traduit cette expression « tente d'assignation » parce que le mot là en hébreu il est difficilement traduisible, et certains ont traduit « l'attente de la rencontre »,« l'attente du rendez-vous ». Et j'aime bien cette expression « l'attente du rendez-vous » parce que véritablement, il y avait donc une tente qui était expressément réservée à cette rencontre que nous lisons là entre Moïse et l'Éternel. La leçon que nous pouvons retenir pour nos propres vies, c'est qu'il nous est bon aussi d'avoir notre endroit personnel de rencontre avec Dieu. Bien sûr, cela ne dépendra pas du lieu, mais il est bon d'avoir nous aussi nos rendez-vous avec le Seigneur, à la fois en lieu et en temps. Des moments où on se réserve ce temps avec le Seigneur. Un endroit où on est bien, un endroit où on se sent bien, un moment où on est à l'aise, un moment où on sait qu'on va pouvoir être tout seul avec le Seigneur, un temps où c'est le moment propice. Et il faut surtout que nous bagarrions, que nous luttions pour garder ce moment-là. Parce que si nous ne le faisons pas, il y aura une multitude de choses qui va prendre ce temps, ce rendez-vous divin, cette tente d'assignation. Alors évidemment, nous sommes sous la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin d'une tente, d'un endroit réservé, mais quand même, que chacun d'entre nous, et je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes des hommes et des femmes de prière, vous savez ce que je veux dire quand il est parlé de ce lieu, de ce rendez-vous divin, ce petit endroit où nous savons que là, nous sommes bien et nous sommes disposés à chercher la face de Dieu, à le rencontrer, que ce soit en question de temps et de lieu. Au verset 8, on voit que lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple sortait chacun de sa tente. Là, il est parlé de sa tente où ils habitaient. Hein, on se rappelle, ils sont nomades dans le désert, donc ils habitaient sous des tentes. Donc, c'est comme si chacun sortait de sa maison. Et puis, il regardait Moïse, là, marcher dans la rue. Il allait dans la tente. Et là, ils étaient là, silencieusement, respectueusement. On voit le sérieux, la solennité de ce moment-là. Je dirais que, pour notre part, l'invitation, même si là, je force un peu le trait du texte, mais il faut que nous fassions aussi que nous soyons conscients, pardonnez-moi, de l'importance aussi de notre préparation à cette entrée dans la communion avec le Seigneur. Faisons attention. À l'église, par exemple, pourquoi est-ce qu'on chante ? Est-ce qu'on chante parce qu'on est content ? Oui, on est content, mais ça dispose aussi nos cœurs. Ça permet, pardonnez-moi, un petit sas de décompression ou au contraire de pression pour que, voilà, que toute l'agitation de dehors, les soucis, les tracas, la prise de tête, le gars qui nous a embêtés, là, que voilà, on chante, ça dispose nos cœurs et puis après, voilà, on peut écouter, prier, rentrer dans les choses spirituelles. Ça sert aussi à ça, même s'il doit y avoir aussi l'envie de prier et d'exprimer. Mais il faut que nous soyons conscients qu'il y a avant l'entrée dans la tente d'assignation, avant ce rendez-vous divin, il y a ce temps avant qui est aussi très important. C'est difficile d'avoir l'esprit disposé à la prière, à la louange, si on a passé une heure et demie devant la télé à regarder gauche, droite. C'est difficile, à mon avis, d'être dans un état de prière, d'intercession, d'amour, si on vient de passer une conversation où on a critiqué Pierre, Paul, Jacques, André. À mon avis, c'est difficile d'être dans un désir de rentrer dans un cœur à cœur avec Dieu si avant on s'est entretenu de mauvaises pensées, de sentiments mauvais et qu'on a entretenu. Il faut que nous fassions également attention et que nous prenions. Que nous réalisions l'importance aussi de cette préparation avant cette rencontre. Et puis au verset 9 et 10, il nous est parlé là de la colonne de nuée. C'est pas la première fois qu'il est parlé de cette colonne de nuée, colonne de nuages, il n'y a bien pas forcément un nom. Je vous donne la référence et j'oublie, c'est en Exode chapitre 13 verset 21 qu'il est écrit « L'Éternel ». Aller devant. Je rappelle pour ceux qui découvrent un peu le message que le peuple d'Israël était un peuple nomade. Donc ils faisaient du camping pendant 40 ans, entre autres après. Donc ils vivaient sous des tentes et ils se déplaçaient comme ça de lieu en lieu. Donc c'était un peuple nomade. Et il nous est dit que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'est quand même incroyable. Imaginez, vous êtes en voiture, et vous avez là un tourbillon qui marche devant vous, qui s'arrête là, sur le parking avec vous. Hein ? Tu cherches la référence ?
Oui.
Exode 13, 21. Mais c'est quand même incroyable, ce témoignage visible à la fois de la présence et aussi de la protection de Dieu. C'est ça que ça représente. Je ne sais pas si on imagine le spectacle. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Okay, ils sont dans un campement. Il y a cette colonne qui est constamment avec eux, constamment. Okay, le jour, la nuit. D'ailleurs, ça faisait comme une sorte de je sais pas, comme c'est une colonne de lumière, c'est une sorte d'éclairage du camp. Enfin, il n'y avait pas de ténèbres en fait réellement dans le camp. Enfin, moi, ça c'est autre chose. Et pourtant, malgré que le peuple entier puisse voir jour et nuit la présence de Dieu, parce que c'est quand même du surnaturel, et bien pourtant, ça n'a pas empêché le peuple pendant ce temps-là de construire des veaux d'or, de se prostituer, de médire, de même vouloir à un moment tuer Moïse, hein, de se révolter, de douter, de voler, d'injurier. Et pourtant, ils avaient là Il y avait le surnaturel de Dieu qui était là.
Comme quoi, ce n'est pas un problème de miracle, mais c'est un problème de cœur. Et nous, nous n'avons plus une colonne de nuée. Mais on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Heureux ceux qui croient sans voir. Mais il faut que nous tirions les leçons du peuple.
Le peuple avait la colonne, mais ils doutaient. Ils étaient encore dans cet état de cœur, comme Dieu le dira bien souvent. C'est un peuple au cou raide. Ils sont têtus, ils sont bornés. Ils voient, ils croient toujours pas.
Que Dieu nous garde de cette chose. Alors c'est vrai que nous n'avons pas une colonne de visible, mais nous avons le Saint-Esprit. Amen. Et ça, comme on le voit avec le peuple, c'est pas un problème de miracle, c'est pas un problème de voir, c'est un problème de cœur. Et que nous aussi, nous nous gardions d'endurcir notre cœur, de douter, de chouiner, de remettre en cause la grâce de Dieu, le miracle de Dieu. On le sait, on le voit, il est là. Mais que nous gardions et que nous soyons toujours conscients de la présence de Dieu. Nous voulons prier, amen. Mais est-ce que on est toujours dans la conscience de la présence de Dieu? On n'aura jamais une colonne sur notre tête. C'est fini. Il y a eu un temps, c'était l'ancienne alliance. Si vous voulez retourner dans l'ancienne alliance, c'est votre choix. Enfin, moi, je préfère la nouvelle alliance. Hein, parce que moi, je préfère que le Saint-Esprit soit dans mon cœur que dans un tourbillon de nuées. Je préfère avoir sa vision, sa grâce, sa joie, sa paix, plutôt qu'il éclaire ma chambre. Mais c'est la réalité de la vie présentée. Mais ça, pour ça, il faut que nous réalisions toujours la présence de Dieu dans notre cœur. Ce n'est pas un problème de miracle, c'est un problème de foi et de cœur. Et puis, il nous est dit au verset 11 que l'Éternel parlait avec Moïse. Ah, ça nous intéresse. Est-ce que Dieu vous parle? Ne me répondez pas. Est-ce que Dieu vous parle comme il parlait à Moïse? Alors, n'ose pas répondre. Mais honnêtement, je me suis toujours dit, mais comment est-ce qu'il lui parlait? Est-ce qu'il entendait une voix? J'en sais rien. Honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, je pense que s'il entendait une voix audible, on s'aperçoit que les autres n'entendaient pas forcément cette voix. Il nous dit qu'il parlait à Moïse. Et puis on lit dans le texte qu'il y avait Josué à côté. Mais on voit qu'il ne parlait pas à Josué. Enfin, en tout cas, Josué n'a pas l'air d'être dans la même communion, dans la même relation. Et ça, ce ne serait pas si différent que ce qui a pu se passer. Vous savez, lorsque Dieu a parlé à Saul de Tarse. Il est dit que Saul a vu cette lumière, qu'il a vu qu'il a entendu la voix. Et puis c'est étonnant parce que quand on lit le récit de la conversion de Paul, on dirait qu'à un moment, Paul explique que ceux qui étaient avec eux ont entendu et qu'ils n'ont pas vu, et à un autre moment, il explique qu'en fait, ils n'ont pas entendu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Hein? Ils ont vu. Et ils ont vu. Alors on dit, mais mince, c'est quoi cette histoire? En fait, ce qui est, je pense qu'il faut comprendre et qui va coller avec d'autres passages, c'est que quand Moïse entendait, vous avez rappelez-vous sur la montagne, il entendait la voix de Dieu et le peuple, lui, ils entendaient un bruit, ils entendaient des tremblements. Il y avait bien quelque chose qui se manifestait, mais ils ne distinguaient pas. Et je pense que dans le récit de Paul, c'est pareil. Paul a bien entendu la voix de Jésus qui lui parlait. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il a bien entendu, il a bien compris les mots. Ce qui est fort probable, c'est que les autres aient entendu quelque chose, mais n'aient pas compris cela comme une voix. Ils ont bien entendu quelque chose, mais ils n'ont pas entendu que c'était une voix et ils ne comprenaient pas le message. Peut-être que c'est probablement comme ça qu'il y avait cette relation entre Moïse et Dieu. En tout cas, ce qui est important, c'est de réaliser surtout qu'effectivement, il y a peu probable que Dieu nous parle de cette manière aussi efficace qu'à Moïse, tout simplement parce que Moïse avait une mission unique. Heureusement, il n'y a eu qu'un seul Moïse. Hein. Il n'y a eu qu'un homme comme lui. Et puis, la position de Moïse était différente que la nôtre. Moïse était le prophète pour tout le peuple. Il était celui par lequel Dieu parlait. Donc il avait besoin d'une relation privilégiée. Que devons-nous attendre de notre relation avec Dieu ? Par le Saint-Esprit, Dieu nous accorde à chacun d'avoir une relation avec Dieu. À tous. Il n'y a plus d'intermédiaire aujourd'hui. Il n'y a plus un prophète. Le pasteur que je suis n'est pas un prophète. Il ne se place pas entre médiateur, entre vous et Dieu. Nous avons chacun, nous sommes chacun des sacrificateurs pour Dieu. Nous avons chacun une communion personnelle avec Dieu. Par contre, ce qui est possible, effectivement, dans cette relation, dans ce contact, et comme on disait précédemment, dans cette relation avec le Saint-Esprit qui est en nous et plus seulement extérieurement, là, visible, Dieu peut mettre et émet de profondes convictions dans notre cœur. Certains nous disent, mais toi tu dis que Dieu te parle, mais comment il te parle, toi? Bah, c'est vrai que quand les gens nous disent ça, on est un peu saisis, parce que c'est vrai qu'on a notre jargon, et c'est vrai qu'on n'entend pas une voix. Mais il met des convictions, des certitudes, des orientations. Et ça, c'est nécessaire, mes bien-aimés, de chercher ce genre de communion. Rappelons-nous aussi que le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est par sa parole écrite. Et il nous a donné. Au temps de Moïse, il n'y avait pas de parole, hein, il n'y avait rien. D'où la nécessité d'avoir un homme qui soit en parfaite communion avec Dieu pour communiquer exactement la pensée de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'homme à la hauteur de Moïse parce que tout est là. La Bible écrite est la première et le premier moyen par lequel Dieu nous parle. Et c'est tellement important de toujours s'y référer. Et faisons d'ailleurs attention à ceux qui soi-disant ont des voix, des messages qui se détourneraient de l'écriture, car ce serait le premier signe justement d'une inspiration qui ne viendrait pas de Dieu. L'écriture est la première source de dialogue que Dieu a avec nous, qu'il la confirme avec le Saint-Esprit, parce que ça c'est indispensable d'avoir cette parole qui n'est pas seulement lettre mais qui prend vie en nous. Et en plus, on a la grâce que Dieu dispense ses dons par des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles prophétiques qui sont en plus ajoutées à tout cela. Et pourquoi pas qu'un jour, quelqu'un puisse aussi expérimenter la voix de Dieu qui lui parle à des circonstances très particulières. J'ai entendu des témoignages comme ça d'hommes de femmes qui ont entendu la voix de Dieu. Oh, c'était rarement des longs discours. C'était toujours à des moments particuliers et cela vient aussi de Dieu. Et comment est-ce qu'il lui parlait? Il nous est dit que Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Alors cette expression face à face veut dire librement. Et oui, Dieu est esprit. Je ne sais pas quel visage vous voulez mettre à un esprit. Donc il faut comprendre que c'est une expression, c'est en Nombre chapitre 12 d'ailleurs qu'il nous est parlé en fait que Moïse voyait une représentation de Dieu. Dieu n'a pas de visage, Dieu n'a pas de forme, Dieu n'a pas de corps. Bon, vous le lirez à la maison, hein, plus loin au verset 20 et 23, il nous est dit... Bon, si je vous le dis quand même, verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais oui, rien que le soleil déjà, ça nous brûle les yeux. Alors la face de Dieu, sachant que le soleil, c'est rien quoi par rapport à Dieu lui-même. Et puis au verset 23, il nous dit, et lorsque je tournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vu. Donc derrière l'expression face à face, effectivement, ce n'est pas que, voilà, comme nous, on est face à face, mais c'est une expression pour signifier qu'il y avait cette liberté, cette fluidité, comme un ami, une liberté, une honnêteté, comme on peut regarder quelqu'un dans les yeux, parce que, voilà, c'est libre, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a rien entre. Il y a une complicité parfaite. D'ailleurs, et c'est important de continuer cette notion en Nombre, chapitre 12, versets 7 et 8. Il y a quelque chose qui va nous permettre de faire le lien avec deux points. C'est d'ailleurs dans Nombre chapitre 12 qu'il y a cette expression une représentation de l'Éternel. Au verset 7 et 8, il est dit « Mon serviteur Moïse » c'est Dieu qui parle. « Mon serviteur Moïse est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. » Nombre, chapitre 12, versets 7 et 8. Donc Dieu dit deux choses très importantes. Pour revenir sur le point d'avant, donc Moïse voyait une représentation de Dieu. Mais là, il nous dit quelque chose d'essentiel pour nous à comprendre parce que ça va être l'application spirituelle pour nos vies. Avant de dire que Dieu lui parle bouche à bouche, qu'il lui parle sans aucune énigme, c'est-à-dire sans cacheterie, sans quoi ?
Embâche.
Sans embâche, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je te fais confiance. Que vraiment il y a une fluidité de communication entre eux. Avant de dire ça, il dit « Mon serviteur Moïse est fidèle dans toute la maison. » C'est-à-dire qu'il est d'une fidélité, d'une intégrité parfaite, dans les moindres détails. Est-ce que Dieu peut nous parler avec une telle liberté, sans secret, comme un ami, dans une parfaite relation de confiance? Parce que c'est ça en fait la réalité du dialogue qu'il y avait entre Moïse et David, entre Moïse et Dieu. C'est une parfaite intimité, amitié. Et parce que Moïse était fidèle dans les moindres détails, alors Dieu pouvait lui parler comme un ami. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus. En Jean, chapitre 15, verset 15, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » On retrouve la volonté de Jésus pour chacun d'entre nous, et pas seulement pour un prophète. Il veut que nous soyons ses amis, afin effectivement qu'il puisse avoir avec nous une parfaite relation. Je vous ai fait connaître tout ce qu'il y avait à savoir. Mais avant de dire ça, Jésus dira au verset 14, donc juste avant, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et là, on retrouve la même logique avec Moïse. Moïse était un homme qui avait... avec qui parler avec Dieu comme ça, là, en bouche à bouche, face à face. Tout était limpide, clair, net. Parce que Moïse était un homme intègre dans toute la maison et dans tout ce que Dieu pouvait lui confier. Et Dieu est celui qui veut aussi avoir une relation vraie, intime, fluide avec nous. Mais il nous dit, nous serons amis si vous faites tout ce que je vous... Et donc, effectivement, si nous voulons développer notre intimité, notre cœur à cœur, soyons aussi d'une droiture, soyons limpides, soyons nets, soyons mais nettoyés de toute impureté, soyons fidèles dans les moindres recoins de notre vie, de nos pensées, de nos agissements, de nos pensées, de nos arrière-pensées. Ne croyons pas que pardonnez-moi pour reprendre cet exemple, que Dieu va jeter ses perles au pourceau. Eh oui! Mais il réserve. Il y a un autre verset en Osée qui dit que Dieu ne cache rien à ses serviteurs, ses prophètes. Dieu veut révéler les choses. Mais il ne les révèle pas non plus à n'importe qui. Puis Moïse retournait au camp. Vous lirez ça à la maison, c'est au chapitre 34, versets 29 à 35. C'est un complément de ce passage-là. Là. En fait, il nous est dit que chaque fois que Moïse rentrait dans la présence de Dieu et qu'il en ressortait, son visage brillait. Il prie, à tel point qu'il mettait un voile sur, ses, sur, son, sur ce visage pour que le peuple de Dieu ne s'arrête pas justement sur cette lumière qui passait. Parce que chaque fois, parce que la lumière s'estompait, c'est chaque fois qu'il retournait dans la présence de Dieu que cette lumière revenait. Gardons un seul enseignement pour nous. Recherchons la présence de Dieu jusqu'à ce que nos visages brillent. Un chrétien qui a une communion avec le Seigneur, ça se voit. Ça se voit. Alors, on ne va pas briller comme des halogènes, mais brillons de la joie, de la paix, de la sérénité. Quelqu'un disait, un chrétien, ça doit se voir, se sentir, s'entendre. Mais oui, c'est vrai. Non pas parce qu'il vient à l'église, mais parce qu'il a une communion avec le Seigneur. Et nous devons rechercher. Lorsque nous rentrons dans notre tente d'assignation, Seigneur, fais briller ta lumière sur moi. Je veux que quand je vais m'arrêter de prier, je veux qu'il y ait cette grâce qui est coulée en moi et qui soit manifeste pour ceux qui m'entourent. Ça, c'est la vraie communion avec le Seigneur. S'il n'y a pas cette transformation, ce travail de gloire en gloire avec nous, c'est que nous manquons quelque chose dans notre communion avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait ce ressourcement. Et on ne peut pas rester indifférent. Quelque part, on serait même illogique de dire « Ah, oh, je suis dans la présence de Dieu, mais je reste le même. » Attends, t'es en train de dire que Dieu te parle, mais toi, tu restes le même. Mais en fait, ce n'est pas possible. Même quand on reste au soleil, on est un peu plus bronzé. Donc, soyons logiques avec nous-mêmes et recherchons-le. Parce que peut-être, qu'est-ce que tu entends certains... Je vous ai déjà fait part ça, de ces gens qui disent « Ah, moi, je prie, mais je ne prie jamais pour moi. » Mais si, il faut prier pour soi. Il faut prier pour que, effectivement, le Seigneur nous communique quelque chose qui puisse se voir et qu'il y ait cette sainte joie lumineuse sur nos vies. Et puis, la dernière pensée, c'est avec Josué. Alors que Moïse, lui, retournait au camp, son jeune serviteur Josué ne sortait pas du milieu de la tente. Mais c'est beau ça. Il y en a, il voulait pas sortir. Il dit non, je suis tellement bien. Je suis bien. Oh, ça fait penser, vous savez, à la montagne de la transfiguration là. Il y a la transfiguration et Pierre, Jacques, oh, on va mettre une tente, on va rester là, on est tellement bien. On bouge plus. Mais Seigneur Jésus, s'il te plaît, trouve nos cœurs comme ça. Trouve nos cœurs comme ça. Que quelque part ce soit les contraintes de la vie qui nous obligent à nous lever. Mais qu'il y ait toujours dans notre cœur le désir de rester dans la présence de Dieu. Si on n'a plus de goût à ça, si on n'a plus envie de ça, si on n'expérimente plus ça, s'il y a quelque chose qui ne va plus dans notre relation avec le Seigneur. Josué, pourtant il ne brillait pas le visage de Josué. Là encore, pourquoi est-ce que c'était Moïse? Parce que c'était le prophète de Dieu, il fallait qu'il soit marqué. Moïse a été l'homme incroyable, enfin, il a marqué l'histoire du monde entier. Il fallait vraiment qu'il y ait une marque spirituelle forte, un témoignage surnaturel sur cet homme par rapport à toutes les conséquences qu'il y a eu derrière. Josué était là dans la présence de Dieu et il aimait cette présence. Il faut que ce soit nous, ça. Il faut que nous soyons ces Josué. Bien sûr, on ne peut pas malheureusement prier toute la journée, mais sachons évaluer notre cœur. Est-ce que je me lève parce que, bon, je m'ennuie? Ou est-ce que, ah, j'aurais bien voulu, mais bon, il faut bien continuer la journée. C'est ces approches qui sont différentes que le Seigneur fasse de nous et de ces Josué qui aiment rester dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce Josué qui sera le successeur de Moïse. Amen. Alors voilà qu'au travers de ce passage, nous aspirions à cette présence de Dieu, que nous aspirions à ce que Dieu nous parle, que nous puissions être disposés, que nous soyons aussi obéissants, que par notre communion, le Seigneur éclaire nos cœurs, que nous aimions et que nous sachions entretenir cette intimité et que nous ne nous précipitions pas à lever nos talons ou plutôt nos genoux du sol, mais que nous aimions aussi cette présence. Amen.